CFM, l'esprit. Rock.
Bella Ciao. Deux ou trois choses que je sais. La chanson. Aujourd'hui, Patlik, à propos de son album L'Art de la Défaite.
Tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi.
L'art de la défaite. Patlik, bonjour.
Bonjour.
3 ans sans album, Patlik, c'est pas une habitude chez vous, qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai eu le temps de faire cet album parce que j'ai disposé d'une aide substantielle financière qui m'a été accordée par la DAMI, qui s'appelle l'aide du 365, qui m'a permis de pouvoir prendre le temps de faire ce disque, alors que pour les albums précédents, j'étais tout le temps dans une espèce d'urgence. Il fallait que je me dépêche pour pouvoir alimenter que je mette du charbon dans la machine, quoi, pour alimenter l'économie de la production des albums consécutifs. Dans la mesure où je ne vends jamais beaucoup de disques, les caisses s'épuisent chaque année, donc j'étais obligé à chaque fois de relancer la machine et de refaire un disque. Là, j'ai eu cette espèce de matelas, là, de support, de filet, qui m'a fait pouvoir profiter du temps, en fait.
En filigrane, ça veut dire qu'être indépendant, ce que vous avez toujours revendiqué, c'est bien, mais que ça représente aussi de sacrées contraintes.
La vie d'un artiste indépendant est largement aussi contraignante, sinon plus que celle d'un artiste signé. Pour en avoir discuté avec des artistes et indépendants et signés, les problèmes sont sensiblement équivalents, pas forcément les mêmes, on n'a pas le même type de problème. Mais oui, on est blindé de problèmes aussi, on est indépendant. L'espèce d'image d'Épinal qui consiste à dire qu'un artiste indépendant est plus libre que les autres, ça n'est pas forcément vrai.
Vous allez continuer dans cette voie néanmoins, ou vous pensez peut-être prendre un virage de ce côté-là aussi ?
C'est pas moi qui vais choisir, en fait. C'est-à-dire que je pense que si là, on me propose de me produire, et que si je sens vraiment qu'il y a un désir d'un producteur de me produire, je pourrais être susceptible de répondre favorablement, pour une fois. J'aurais fait 15 ans de musique, presque 15 albums dans la veine de l'indépendance. C'est vrai que ça use.
Ça use, et en même temps, on se dit qu'en ce moment, il est en train de se passer quelque chose autour de vous.
Je suis moins bien placé pour le voir, parce que si c'est vrai, je suis dans l'œil du cyclone, donc je vois pas ce que le cyclone engendre de manière collatérale. J'ai l'impression juste que effectivement, peut-être il y a eu un peu plus de communication faite sur ce disque et un peu plus de résonance médiatique. Mais on reste quand même toujours dans la confidentialité.
Batlik, cet album s'intitule « L'art de la défaite » et c'est Batlik Sioran ou « L'art de la défaite » lorsqu'il a été plus ou moins créé à Avignon.
Les 10 morceaux du disque ont effectivement été créés pour Avignon. Enfin, ils ont été créés pour faire un disque, mais en même temps que la création, il était question que je commence à faire le dispositif aussi. Organisé par la DAMI, au Festival d'Avignon, qui permettait d'intégrer la chanson dans le festival. Alors, j'ai dû commencer à savoir que j'allais faire Avignon à peu près la moitié de l'écriture de l'album. J'étais déjà dans le concept de Sioran, c'est-à-dire que chaque morceau était censé répondre à la philosophie de Sioran ou au personnage de Sioran ou à sa vie en résonance. Et ça s'est concrétisé parce que Xavier Lacouture m'a conseillé, en montant à Avignon, de théâtraliser le truc. Il m'a dit « Avignon, c'est quand même du théâtre ». Alors j'ai inventé une espèce d'histoire en filigrane des morceaux sur la scène. C'est une histoire qui n'existe plus maintenant sur scène, mais j'en parle avec les musiciens. Ça a donné une espèce de colonne vertébrale sur la setlist qui existe encore aujourd'hui. Ça a permis de faire que les morceaux résonnent aussi les uns avec les autres et pas que avec la philosophie de Sioran.
C'est quoi le rapport de Batlik à Sioran ?
J'étais depuis que je faisais de la musique, persuadé que je faisais de la musique suite à une phrase qui avait été prononcée par mon grand-père. Il avait dit « La musique, le refuge des âmes ulcérées par le bonheur ». Et cette phrase-là avait tout le temps résonné en moi jusqu'au jour où je suis tombé dessus sur cette phrase, exactement celle-là, mais dans un livre de Sioran. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais attribué à mon grand-père, cette espèce de lien familier, n'était pas du tout valable. Et ça s'est déconstruit d'un coup, comme ça. Je me suis dit, mais en fait, ça n'a rien à voir avec mon grand-père, cette phrase-là. Alors je me suis demandé quel était l'auteur qui avait conditionné mon rapport à la musique depuis tellement d'années. Et c'est à ce moment-là que je me suis plongé dans l'écriture de Sioran, mais aussi, encore une fois, dans son univers, sa personnalité et ce qu'il donnait à voir de lui.
Un univers, une personnalité plutôt sombre, vous vous y retrouvez ?
J'ai toujours participé à une espèce de cynisme et de pessimisme dans mes morceaux. Finalement, je me suis senti beaucoup plus familier avec Sioran que je ne l'étais avec la plupart des gens de ma famille. Et évidemment, effectivement, c'est sa façon d'entrevoir le monde et la philosophie qu'il a construite me parle beaucoup. Non pas que je sois un féru de philosophie, mais j'avais toujours été un petit peu rebuté par la philosophie de par son côté systémique. Il s'agissait d'obéir comme ça à un système pour pouvoir arriver à appréhender au mieux l'existence. Et dès que je me suis intéressé à Suran, je suis tombé au hasard sur une phrase qu'il avait dite de sa philosophie. Il défendait corps et âme le fait que dans sa philosophie, on pouvait défendre une idée à midi et défendre l'idée inverse avec autant de fougue et d'ardeur à midi et quart. Et que la philosophie, c'était aussi ça. Ce n'était pas justement quelque chose de systémique, mais que ça pouvait être quelque chose qui échappait à un système. Et ça, ça m'a captivé, parce que je me suis dit que c'était culotté, quoi, de proposer cette version-là de la philosophie. Et à chaque fois que j'ai avancé un peu plus avant dans la philosophie de Suran et dans son personnage, j'ai été toujours bluffé par cette espèce de courage intellectuel dont il faisait preuve.
Vous êtes devenu maître dans l'art du demi-tour, alors ?
J'ai l'impression, pour répondre à cette question, que non. C'est-à-dire que si je l'ai fait, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça ait eu à voir avec moi. Toutes les emmerdes que j'ai eues avec ce disque-là, elles se sont effectivement résolues. Je suis toujours retombé sur mes pattes et je me suis mieux porté après les emmerdements qu'avant. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas été, encore une fois, l'objet d'une méthodologie de ma part, mais un peu le fait du hasard et de la chance.
Batlik, on va écouter une deuxième chanson extraite de l'album. C'est celle qui donne le titre à l'album, L'art de la défaite.
CFM.
La côte en haut de la vie. L'été. C'est là rend indocile. Il faut une raison pour y aller. Raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Il y marche comme l'on vole. L'air de ne pas y toucher. Mais le moindre bruissement l'affole. Le fait se redécourager, revenir sur ses pas, et puis recommencer à requitter l'en bas. C'est que tout l'autour à la tire, c'est ce que se sent, lui dit que tu son latin, sa divise, aux volets bleus et entrouverts, au vélo vert. À ce à quoi il renonce en faisant marche arrière. C'est tout l'art de la défaite, ça tient dans un demi-tour. Demi-tour. Tout l'art de la défaite est là, dans ce demi-tour sur soi. De la ville est avare en ombre l'été. Cela rend indocile. Il faut une raison pour y aller. Raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Il en redescend comme on sort d'une nuit blanche et agitée. Le moindre bruissement l'endort. Le fait se remettre à rêver. Revenir sur ses pas. Et puis recommencer à regagner l'en bas. C'est qu'il y a tout l'autour. Consumé par les sangs. Et l'été. Son latin. Résumé à répéter tout bas. Voudrais-tu danser? Voudrais-tu danser? Voudrais-tu redanser avec moi ou pas, hein? C'est tout l'art de la défaite. Ça tient dans un demi-tour. Demi-tour. Tout l'art de la défaite est là, dans ce demi-tour.
de la défaite, chanson extraite du nouvel album qui porte ce nom. L'art de la défaite, on le retrouve comment chez Sioran?
C'est un peu la colonne vertébrale de sa philosophie, c'est-à-dire qu'il s'agit de se dire que de toute façon, ce sera raté. Alors comment est-ce qu'on fait au sein de ce ratage pour pouvoir ne pas juste rester chez soi et déprimer? C'est ce qu'il a construit dans sa philosophie, et l'histoire de cette chanson, c'est ça, c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué qui finalement donne lieu à un texte, quoi, à une musique, à une musicalité, malgré le fait que tout ce qui devait advenir dans cette chanson n'advienne, ne soit pas devenu.
Vous avez évoqué tous les ennuis qu'il y a eu. Ça vaut la peine d'en parler ou c'est sans intérêt?
Bon, après, je pense que quand on produit un disque, il y a toujours comme ça. C'est jamais simple, quoi. Mais c'est vrai que particulièrement sur cet album et depuis le tout début, j'ai eu une suite d'aléas. Et à chaque fois, je pensais que ça allait être tellement contraignant que j'allais m'arrêter là, quoi. Et comme un chat, j'ai réussi à retomber sur mes pattes. En construisant le Festival d'Avignon, j'étais avec un tourneur, ça s'est pas bien passé. Je me suis retrouvé seul à produire le Festival d'Avignon, ce qui engendrait des coûts assez importants pour moi, malgré l'aide de l'ami. Et puis c'était quelque chose que je savais pas faire aussi. Au tout début de cet album, mon ancien distributeur s'est fait racheter par un énorme distributeur qui s'est empressé de me rappeler en me disant que je ne vendais pas assez de disques, qu'il fallait que je récupère mes stocks d'albums, et j'avais une flemme terrible de récupérer ces 8 ou 10 000 disques, donc je les ai tous envoyés au pilon, donc j'ai détruit quasiment tous les exemplaires des albums, il ne me reste plus que 3 ou 4 références dans les studios. C'est comme ça que j'ai commencé à appréhender cet album. Est-ce que c'est ça qui m'a porté la poisse? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai eu une proposition de clip dans laquelle j'ai mis beaucoup d'argent, qui était un clip complètement d'une tristesse absolue. Quand on l'a présenté à toute l'équipe de production, les gens étaient dépités. Et puis après, il y a eu toute l'histoire d'une production lambda qui se passe jamais comme on espérait qu'elle se passe, quoi. C'est vrai que c'était éprouvant. En tout cas, c'est l'album pour moi qui, malgré le fait que j'ai été épaulé financièrement, a été le plus difficile à gérer et à organiser.
Finalement, c'est écrire et composer le plus simple pour vous?
Pour cet album-là, oui, pour une fois, ça a été ce qui a été le plus simple. Mais je me suis aussi détaché de l'écriture avec cet album-là. Le concept de se reposer sur Sioran m'a permis d'être moins dans le discours, d'être moins dans une espèce de préformatage des idées dans lesquelles j'avais l'habitude d'être avant. Avant, quand j'écrivais une chanson, je savais ce qu'était censé raconter cette chanson. Là, au début de l'écriture des chansons, je ne savais pas où ça me menait. Et finalement, ça n'est que longtemps après, en les interprétant sur scène, que j'ai vraiment découvert le substantifique moelle de chacun de ces morceaux, et je me suis aussi rendu compte que ces morceaux-là étaient bien plus proches de moi que beaucoup de morceaux que j'avais écrits auparavant.
Ça avait été... Non, esquissé déjà cela dans l'album précédent, dans 11, ou je me trompe?
Non, c'est vrai, ça a été esquissé depuis l'album Le Poids du Superflu, et ce qui a esquissé ce mouvement, c'est la rencontre que j'ai faite quand j'ai rencontré mon épouse, quoi. C'est elle vraiment qui a changé mon positionnement par rapport à l'écriture, qui m'a fait me positionner autrement, ne pas gérer ou vouloir diriger l'écriture, mais me laisser diriger par elle.
On va écouter une autre chanson extraite de cet album, Batlik. On va écouter Garde-fou.
Crainte-moi ton chien par cet acte doux cadencé. J'en ferai à toi ce que toi voulais. Je dis pardon, je dis rien. Je dis prendons-moi ton tien. Ouvre l'écorce et le cœur. Ouvre porte, allez, fais faveur. Fou. Les sous, laisse couler quelques larmes, mais jamais, jamais des saisies larmes. Moi suis devant toi, je nous n'en pliais pas. Là encore, l'autre c'est tout. Garde corps contre garde fou, régnant, voilà œuvre. Louve craintive, voilà. Acte doux, cadencé, fais sous camomille, fais soigner. Fourier favorise, fourier favorise, fourier favorise, fourier favorise.
Garde-fou de l'album L'art de la défaite de Batlick. Batlick, chanson d'amour, c'est pas votre spécialité, il en faut, quitte à ce qu'elle fasse des demi-tours en cours de route aussi.
C'est ce à quoi participe cette chanson. C'est aussi là-dedans que résonne la philosophie de Sioran, c'est qu'il n'est pas question d'un amour absolu ou d'un amour inconditionnel ou d'un amour complètement beau, hein, d'un amour complètement lumineux. Il est question de parler d'un amour qui a une en pile ou face, en face A ou en face B, une face claire, une face sombre. Cette chanson-là, c'est ça, c'est la réponse à chaque fois de la négativité avec la positivité, quoi. Du vide par rapport au plein. Voilà, c'est chaque phrase résonne avec sa phrase inversée.
Ça se déclenche de façon différente des autres, une chanson comme celle-là.
Toutes ces chansons-là sont déclenchées. Pareillement, c'est-à-dire que je me suis vraiment laissé porter par l'écriture, quoi. J'ai fait confiance au vide pour écrire chacun de ces morceaux-là. Et finalement, je les ai remplis avec des idées qui n'étaient pas là au préalable.
On va parler un petit peu musique, Batlick, si vous le voulez bien. Dans cet album, il y a beaucoup de musiciens, il y a des chœurs. Parlez-nous un peu de la façon dont la musique a été faite dans cet album?
Mis à part pour Benjamin Véron à la batterie avec lequel j'avais collaboré depuis quelques albums, je me suis confronté à des musiciens que je ne connaissais pas, qui étaient certes en plus grand nombre et qui étaient nouveaux pour moi. Et j'ai pris beaucoup de temps pour revenir sur les erreurs, non pas pour effacer les erreurs, mais pour ne garder que les plus belles d'entre elles. Dans ce disque-là, il y a un rapport à la musique qui a été complètement neuf pour moi. Ça m'a vraiment surpris en écoutant encore la production de cet album aujourd'hui. Je doute que ce soit moi qui y ai participé, parce que ça me paraît tellement riche et beaucoup plus riche que ce que je faisais auparavant. Et à noter aussi que cette richesse, quelqu'un y a participé grandement, c'est Jean Lamotte qui a mixé cet album-là, qui a fait bien plus que le mixer en fait, qui a apporté une couche supplémentaire, quoi, une envergure, une assise qui n'existait pas avant qu'il se mette à travailler sur ces morceaux-là. La section basse-batterie a été formidable, Benjamin Véron et Virian Sey qu'on retrouve sur scène là, et les chœurs de Fanny Charmon aussi ont été essentiels dans l'articulation et le squelette de ce disque.
Il y a aussi un duo avec un bluesman.
Ce bluesman, c'est Don Cavalli, et il s'avère que Don Cavalli, je le fréquente depuis très longtemps, puisque il travaillait dans le studio à Aubervilliers, qui était juste à côté de chez moi. Donc plusieurs fois par semaine, j'entendais le blues de Don Cavalli résonner dans mes oreilles. Et il y a 2 ans, j'ai eu une petite fille, et ma foi, elle a tout de suite accroché aussi avec le phrasé, la mélodie et la musicalité de Don Cavalli. Donc j'ai fait d'une pierre 2 coups, je me suis à la fois, moi, fait plaisir parce que j'avais toujours apprécié la musique de Don Cavalli, et puis je me suis mis à frimer aussi pour pouvoir, devant ma fille, me permettre de lui dire que son père travaillait avec l'artiste qu'elle préférait le plus. Voilà.
Vous évoquez la scène, comment vous allez restituer sur scène la richesse musicale que l'on vient d'évoquer?
On a énormément travaillé pour la scène, on a vraiment fait beaucoup de résidences, beaucoup de répétitions, on a fait beaucoup d'allers-retours sur scène. J'ai enregistré chaque concert que j'ai réécouté, je me suis mis à changer d'abord des choses importantes et puis de plus en plus de petits détails pour arriver à avoir quelque chose de très très précis. Et ça aussi c'est un exercice auquel je ne m'étais jamais attelé jusqu'à présent. J'avais une espèce de quelque chose de très frontal avec la scène, on y allait, on jouait, et mis à part pour les albums live, je n'aurais écouté jamais ce qui s'y produisait. Là ça a été différent, chaque morceau, chaque set, chaque concert a été enregistré et retravaillé par la suite.
On enregistre cette émission au Café Plume à Lautrec. Demain, c'est rendez-vous avec Paris.
Oui, demain, c'est la date parisienne avec, est-ce que ça a d'importance, mais j'imagine que comme pour un Stéphanois de jouer à Saint-Etienne, c'est important, comme pour un Lyonnais de jouer à la maison, c'est important aussi. Jouer chez soi, c'est toujours une date particulière parce que c'est souvent là qu'il y a le plus d'affluence. Et puis, c'est là aussi où on a fait ses premières armes. Donc, ça résonne différemment que dans des lieux inconnus ou moins connus. Je profite de passer au Café Plume pour aussi proposer la formule qu'il y aura demain à la maroquinerie en sextet, et qu'on fasse une espèce, on l'a répété toute la journée ici, et c'est une espèce de répétition en conditions qu'on va faire ce soir aussi dans les conditions du live avant d'arriver sur la scène de la maroquinerie demain.
Batik, on va se séparer en écoutant une dernière chanson de l'album, Outrage, particulière celle-là, pas de référence à Suran?
Non, c'est la seule qui s'écarte de Suran. Et c'est la seule qui a à voir avec un sujet dont je ne peux pas me départir à chaque album, qui est celui de la vengeance. Je ne peux pas ne pas faire une chanson sur la vengeance depuis des années. Je m'engouffre dans ce thème et j'y sombre comme dans un tourbillon d'eau chaude.
Merci.
Cesse de pardonner aux hommes, cesse de pardonner aux hommes l'outrage. Les coups, donc c'est pas tout le temps. Les coups, y'a pire. mais les applaudissements, non. Valérie hurle le fouet, donc c'est pas tout le temps. Le fouet, y a pire, mais les encouragements, non. Valérie hurle, c'est le mauvais moment. Là, la lie, le renversement où l'homme averti. Passé à l'horloge du village, les chapiteaux dressés, tous les lions dans leur cage. Regarde passer les passants, regarde passer les passants patiemment. Ce soir, tout le monde est là, tous sont venus pour le voir. Leur roi sous son déguisement, le roi humilié au milieu des enfants. En ce soir, tout le monde est là. Lorsque le dompteur en s'enfuit, on laisse ouvert au roi qui, au milieu des gens, cesse de pardonner à la terre entière. C'est le mauvais moment. Là, la lit. Versement pour l'homme averti, c'est le mauvais moment. Là, la lie, le renversement pour l'homme averti. Passé à l'horloge du village, les mères éplorées au milieu du carnage hurlent comme le font les lionnes, hurlent comme le font les lionnes en cage.
Bella ciao, c'est toutes les semaines,
même heure, même fréquence,
et sur internet, toujours bellaciao.blogspot.fr.
René Pagès,
Yves Rebourg,
à la semaine prochaine, peut-être.
Zone d'écoute, fréquence, adresse des studios et contact antenne, CFM, cfmradio.fr, tout CFM sur le net.